fait une enquête hier après-midi. Il s'est avéré que dimanche soir, une grande partie des habitants de Port-au-Royal ont assisté à un passage d'ovnis. Certains sont passés très bas au-dessus des toits et sans bruit, d'autres sont passés très haut. Je ne manquerai pas de vous dire que quand même, le ciel de cette petite ville, Port-au-Royal dans l'Isère, est un couloir de navigation aérienne et que les témoins ont l'habitude de voir passer des avions et ne peuvent pas les confondre avec des ovnis.
Volera à une allure quasi vertigineuse, il ne rencontrera pas une atmosphère tranquille composée bourgeoisement d'oxygène, d'azote et de tout ce qu'il y a comme petit mélange dans notre atmosphère à nous. Non, il traversera des couches de ciel absolument inconnues. Vous savez, les premiers satellites qu'on a lancés, les premières fusées qui sont allées très loin dans le grand ciel, Pioneer 4 qu'on a entendu jusqu'à ce qu'il fût à 500 000 km, nous ont déjà apporté des renseignements sur l'immense ciel.
Non, il n'y a pas possible de se tromper. Et je voudrais que depuis le 1er janvier de cette année jusqu'à ce jour, nous avons par exemple une quinzaine d'enquêtes et que nous avons aussi trois atterrissages, des appareils très différents.
Alexandre Alanoff, un authentique spécialiste d'astronautique, prix international d'astronautique en 1950, a vu une soucoupe volante. Elle a évolué pendant 35 minutes dans le ciel d'Eure-et-Loir, au-dessus de Fermincourt, à 3 km de Dreux.
Buenos Aires, vendredi 26 novembre. Le pilote d'un avion Caravelle, le commandant Domingo Longo, a déclaré avoir dû virer de bord alors qu'il s'apprêtait à atterrir sur l'aérodrome de Redalt Encia, Argentine, afin d'éviter une collision avec un objet volant non identifié. L'objet, qui selon le commandant de bord et son copilote était en forme de pleine lune, a pris de la hauteur à grande vitesse et a disparu dans la nuit. L'opérateur de la tour de contrôle a déclaré lui aussi avoir aperçu l'objet.
Vous savez que surtout l'été, les soucoupes volantes sont nombreuses dans le ciel. Depuis le mois de juin, on en a vu un peu partout, d'Espagne en Amérique du Sud, sans parler de la fameuse soucoupe du plateau de Valensol près de Manosque. Jusqu'à présent, les témoignages étaient toujours plus ou moins sujets à caution, mais cette fois, c'est un spécialiste, un scientifique qui a vu cette soucoupe, qui l'a même photographiée.
Dans ce rapport que j'ai en main, il y a 716 cas. Sur les 515 cas, les plus importants, 50% des témoins sont des pilotes de l'aviation américaine. Ensuite, 22% des témoins sont des membres de la police, police fédérale, police de l'État, police locale. Nous avons des gens qui pilotent leur avion privé, des professeurs, des instituteurs, etc.
Après l'apparition de Valensol, les Anglais ont vu à leur tour hier un de ces mystérieux objets volants non identifiés. Deux barres incandescentes en plein ciel, visibles pendant 10 bonnes minutes. Deuxième apparition à quelques 2000 km de là, hier après-midi à Tunis. Durant plus d'une heure, l'objet a été observé au théodolite. Il présentait, nous dit-on, la forme d'un haricot, altitude 5000 mètres.
Très exactement à 20h05, après le passage de deux avions américains, venant de la base, probablement de la base d'Evreux, puisqu'ils venaient du nord, et ils prennent la vallée de l'Eure en général pour le virage, et s'en vont vers l'ouest. Au-dessus de ces deux avions, mon fils a remarqué un objet lumineux, très lumineux, à peu près trois fois l'intensité de la planète Vénus, l'étoile du berger, et voyant qu'il ne s'agissait pas d'une étoile, il est allé chercher des jumelles, et à ce moment-là, nous avons pu nous rendre compte, par l'intermédiaire des jumelles, d'un objet ovale, rond, légèrement ovalisé.
Près des cascades du Hérisson, dans le Jura, en un lieu où, selon la légende, des druides se réunissaient, M. Georges Vuillain, pisciculteur d'une quarantaine d'années, aperçoit en plein après-midi un engin étrange qui se stabilise à quelques mètres au-dessus du sol. Le lendemain, toute la presse est alertée, et les ufologistes spécialistes des OVNI, objets volants non identifiés, se rendent sur les lieux pour enquêter.
Encore une histoire de soucoupe volante, avez-vous peut-être dit, avec mépris ou non. Tout dépend de l'idée que vous vous faites des exigences de la science exacte.
Alors, comme couleur, l'objet était blanc, et je remarquais que sa luminosité était plus forte à la périphérie qu'au centre. Son pourtour était donc bien visible et définissable, et il s'opposait dans cela au reste de la masse qui paraissait translucide. Mais certains témoins pensent avoir vu des genres de flammes rouges.
J'observais dans le ciel, à la verticale de la pisciculture, des voluptes très blanches descendant la verticale, les unes au-dessus des autres, espacées environ de 50 mètres les unes des autres. Et c'est alors qu'en me retournant, je vis un engin que j'ai pris tout de suite pour une soucoupe volante, étant donné que c'était très gros, posé, enfin stabilisé à 8 mètres au-dessus du sol en bas de ma pisciculture. À ce moment-là, j'ai sauté sur ma voiture pour prendre mon fusil, mes cartouches, j'ai chargé mon fusil et je me suis mis en position contre un pilier d'entrée pour observer ce phénomène. Il s'agit d'une soucoupe faisant environ 20 mètres de long, une coupole d'une douzaine de mètres de diamètre.
Il y avait le silence le plus absolu. Je dois vous dire que le temps était particulièrement calme. La visibilité était parfaite, absolument idéale. Il y avait simplement quelques nuages qui s'étendaient sur l'horizon. Lorsque l'objet a commencé à disparaître à l'horizon, il faut vous dire qu'il demeurait extrêmement lumineux, même étant à l'horizon, nous l'avons vu passer derrière une formation nuageuse qui, de par sa formation, pouvait se plafonner aux environs de peut-être 5 à 7 000 mètres d'altitude. Étant passé derrière, et cette formation nuageuse, on la voyait à travers cette formation nuageuse. Donc on peut conclure qu'en tous les cas, c'était au-delà de 6 à 7 000 mètres.
Aux États-Unis, un organisme officieux chargé d'enquêter sur les phénomènes aériens mystérieux, le NICAP, analyse les multiples et quelquefois troublants rapports reçus par ses services à propos d'objets volants non identifiés.
Je pense même que la vie qui existe sur notre planète est une forme de vie très inférieure, quasiment négligeable, et qu'il existe dans l'univers des formes de vie dont l'activité est très supérieure à notre activité de fourmi.
Elle est restée stabilisée au-dessus de ce chalet de mes bassins pendant 5 minutes, c'est-à-dire de 4h20 à 4h25. Ensuite, elle a commencé de s'incliner tout doucement, la coupole face à moi, pour tourner presque à la verticale, a démarré très lentement sur une cinquantaine de mètres, et après monter aux environs de 10 ou 11 000 mètres une cadence vertigineuse. Là, elle a stationné 3 minutes et est repartie à la même vitesse.
Avant-hier, c'était l'observation faite dans l'Antarctique par des observateurs météo chiliens et le personnel de base britannique. Là, on a vu toute une flottille de soucoupes rouges et vertes à bord jaune. Elles ont volé en cercle pendant plus de 2 heures dans la nuit, en laissant derrière elles une traînée fulgurante. Le même phénomène avait déjà été observé le 18 juin. L'objet ou les objets non identifiés allaient à grande vitesse, plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Voilà les faits, ou plutôt, ne disons pas les faits, mais les témoignages.
Ça n'était pas un ballon, un avion, des hélicoptères ou des fusées de détresse. Les gens ont réellement vu un appareil de 2 à 3 kilomètres d'envergure.
Un certain monsieur Julio Bile a raconté que le 15 avril dernier, alors qu'en compagnie de 4 amis, il observait de sa fenêtre les évolutions de 3 taches dans le ciel. Il ressentit une impulsion interne. S'éloignant discrètement du groupe, il s'assit à une table dans une pièce voisine et s'endormant aussitôt, saisit un crayon et écrivit à toute vitesse dans une langue inconnue. À la fin du texte, un bref message en espagnol annonçait de nouveaux contacts. Depuis, ces communications se sont renouvelées, donnant en espagnol des détails sur la vie des équipages des ovnis.
En ce qui concerne les soucoupes volantes, leurs apparitions se multiplient au point qu'on a fini par en parler de plus en plus rarement, ce fait divers quotidien devenant banal. Mais le fait nouveau, c'est qu'on les a photographiées cette année dans des conditions de positivité indiscutables, que d'autre part plusieurs cas d'atterrissage ont été enregistrés de façon assez troublante, et qu'enfin, en collationnant les observations à la machine électronique, notre ami Aimé Michel a pu obtenir la règle de fréquence, la position des passages et la loi d'orthoténie des disques volants, reconstituant ainsi leur plan d'observation qu'on peut maintenant déduire d'un jour sur l'autre.
C'est très curieux, on pensait que le phénomène soucoupe volante était quelque chose de presque exclusivement américain, pas du tout. Nous possédons en France des observations qui sont extrêmement précises, extrêmement bien faites. Par exemple, une observation qui est inédite, celle de Villacoublay, où pendant 4 heures de suite, les techniciens de la base météorologique de Villacoublay ont observé 3 engins qui se déplaçaient dans le ciel de la région parisienne et qui étaient doués de pouvoir et de capacités absolument extraordinaires. Alors ça a été observé au Théodolite directement, c'est-à-dire à l'œil nu, et aussi dans des jumelles, enfin, et pendant 4 heures de suite.
Nous avons des voisins qui commencent à venir nous regarder de près, paraît-il. C'est exactement en juin 1947, dans le ciel de Californie, que l'épidémie des fameuses soucoupes volantes a commencé. Depuis, d'autres apparitions ont été signalées un peu partout et en grand nombre, même en France. On se rappelle, entre autres, l'aventure dramatique et assez récente du capitaine Mantell, au Kentucky, qui poursuivait une de ses soucoupes à bord d'un avion de chasse.
On ne compte plus, en particulier, les observations de soucoupes dues à ce halo. Ce fut un halo solaire qui provoqua la mort mémorable, il y a quelques années, du capitaine Mantell aux États-Unis, dans le Kentucky. Un immense objet circulaire et brillant avait été aperçu. Fort Knox fut alerté. La tour de contrôle de la base aérienne de Godman donna l'ordre à 3 avions de chasse, dont celui du capitaine Mantell, de poursuivre l'objet. Il le poursuivit si bien et si haut, jusqu'à 7000 mètres d'altitude, qu'il perdit connaissance et que son avion s'écrasa sur le sol.
Essayons de revenir aux faits, d'abord en dépit du silence des agences d'information qui fait croire à l'arrêt des apparitions d'objets volants non identifiés, jamais, comme je l'avais annoncé, on a enregistré tant d'observations. Sans parler des photos prises par l'avion-fusée expérimental américain X-15 et par Scott Carpenter lors du dernier vol spatial américain. Quant aux endroits d'où ces visiteurs peuvent provenir, nous n'avons que l'embarras du choix. Depuis les théories d'Otto Struve, directeur de l'Observatoire national des États-Unis, et depuis les travaux des grands astrophysiciens McCrea, Hoyle et Su-Shu Wang, on considère que parmi des milliards de planètes pouvant être habitées, des millions remplissent toutes les conditions d'éclosion de la vie terrestre. C'est pourquoi de graves savants américains se mettent à l'écoute des étoiles en braquant leur radiotélescope sur Alpha du Centaure, tandis que la station russe Zonde 2 vient de repérer dans l'espace une source d'émission qui, selon l'astronome Vyacheslav Slykh, a une intensité 100 fois plus puissante que celle qu'on pourrait attribuer au rayonnement naturel.
Des différentes soucoupes observées, il en résulte 3 types d'appareils. Le premier serait un disque de petite taille, le second atteindrait un diamètre d'environ 70 mètres et se déplacerait horizontalement comme un hélicoptère. Le troisième, enfin, serait un grand vaisseau aérien sans ailes, ayant la forme d'un cigare.
Les nombreux cas étudiés depuis la mi-mai par la marine et l'aviation militaire en République argentine. De très nombreuses observations ont été enregistrées à Córdoba, Bahia Blanca, Salta. Les témoins furent innombrables. À Bahia Blanca, le photographe Miguel Tomé put même prendre plusieurs clichés, objets brillants passant rapidement la nuit, s'arrêtant, changeant de direction, émettant des couleurs, rasant le sol et même atterrissant. On retrouve toute la gamme des mystérieux objets célestes décrits et analysés dans le livre du même nom de notre ami Aimé Michel, qui a découvert et établi la périodicité des vagues de passage de soucoupes volantes et la régularité de leurs mouvements, en particulier la loi d'orthoténie.
Quant au professeur Agreste, il est chargé par la science soviétique de rechercher sur notre planète toutes les traces de tectites, ces sels radioactives de beryllium qui prouvent l'atterrissage des cosmiques en engins thermonucléaires.
On ne parle plus que de cela dans toute la région de Toulouse. Concorde a croisé il y a 7 mois dans le ciel du Tchad un ovni, l'un de ces fameux objets volants non identifiés. Le secret a été bien gardé car les chercheurs du CNRS qui ont pris en main le dossier n'ont laissé de côté aucun détail. Lorsqu'ils ont aperçu au développement des clichés pris en vol à 17 000 mètres d'altitude, c'était à l'occasion d'une éclipse solaire, un mystérieux point lumineux, ils ont voulu en savoir plus. Le cliché a fait le tour des laboratoires du CNRS. Conclusion des savants, c'est bien un ovni que le supersonique a photographié.
Ces soucoupes sont-elles réellement des appareils de reconnaissance venus d'une autre planète ? L'avenir nous le dira. De toute façon, si d'autres planètes sont habitées, leurs habitants ne doivent pas être plus mauvais que nous. Et le mieux que nous ayons à faire serait de rester tranquille, puisque nous ne pouvons pas faire autrement.
Nous avons ainsi découvert que la ligne de 24 septembre 54 Bayonne-Vichy est en réalité un grand cercle terrestre traversant non seulement l'Europe, mais le Brésil, la République argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Guinée. Dans tous ces pays, des observations ont été retrouvées sur cette ligne avec la précision fantastique de 40 mètres d'erreur pour un grand cercle de 40 millions de mètres. D'autres lignes ont été de même identifiées et nous travaillons actuellement à reconnaître leur allure sur le globe terrestre.
C'est très simple, ça s'est passé ce matin vers 7h30 et à plusieurs points de la région, c'est-à-dire dans l'Ain, dans le Rhône et dans la Loire, c'est-à-dire se déplaçant d'est vers le nord-ouest, on a constaté le passage d'un engin qui n'est pas cette fois une soucoupe volante puisqu'il a la forme d'un triangle. Et il a l'avant, dit-on, arrondi légèrement et de couleur flamme, l'arrière est en forme de triangle et sombre, mais la vitesse du déplacement a été calculée de la façon suivante, s'estimer à 20 à 30 secondes pour parcourir environ 6 km à vol d'oiseau.
Il est 1h15 cette nuit. Brusquement, de mystérieux engins lumineux traversent le ciel en direction du sud-est. Il ne s'agit plus cette fois d'hallucinations collectives, des centaines de témoins les ont vus d'endroits très différents. 8 équipages d'avions qui effectuaient des vols de nuit ont alerté la tour de contrôle d'Orly. Leur témoignage concorde, objet volant à très haute altitude et à grande vitesse.
Et ce témoignage a été confirmé par M. Louis Brun, un cultivateur à Auchias dans la région de Bellegarde, M. Francis Pernaud, facteur auxiliaire à Châtillon-de-Michaille, et son homonyme, M. Fernand Pernaud, homonyme mais non parent, facteur des PTT également à Châtillon-de-Michaille, et M. Benjamin Pillet, cultivateur à Châtillon-de-Michaille. Le même témoignage nous est revenu, je vous le disais, du département du Rhône, des Chères, sur la route nationale numéro 6 entre Villefranche et Lyon, de Roanne dans la Loire un peu plus tard, et ma foi, on a constaté, après le passage de l'engin, à l'oreille, un léger bruissement.
On n'a pas plaisanté avec les ovnis, on n'a pas dramatisé avec les ovnis, on a fait notre boulot de journaliste. C'est-à-dire que quand il y avait un témoignage, on allait faire une enquête sur place, on interrogeait le témoin calmement et on interrogeait éventuellement les gendarmes qui eux-mêmes faisaient une enquête à propos du témoignage. Et ça a convaincu énormément de gens de l'intelligence. C'est-à-dire, j'ai reçu des lettres d'avocats, de médecins, de maires, d'ingénieurs qui m'ont dit « Écoutez, on a écouté votre émission et... on est vraiment bouleversé parce que, puisque ça existe, vous avez l'air de dire que ça existe, on est persuadé que ça existe à l'issue de vos émissions, pourquoi on n'en parle pas plus souvent ? Ça nous semble être un problème extrêmement grave. S'il y a comme ça des petits bonhommes intelligents qui ne font pas partie de notre planète, qui se baladent dans notre espace aérien, c'est quand même pas rien. »
OVNI, objet volant non identifié dans le nord de la France. Un automobiliste, qui n'avait pas encore réveillonné, précisons-le, a vu 2 phares sur le côté de la route. Il a pensé que c'était une voiture, mais les phares ont traversé la route à toute vitesse. Un peu plus tard, un objet de couleur rouge, ayant la forme d'un cigare et émettant de la lumière, se déplaçait. L'automobiliste a voulu en avoir le cœur net, il s'est arrêté. Il y avait effectivement dans le givre, sur le talus, des traces circulaires et des empreintes de pas très petits. Les gendarmes ont confirmé l'existence des empreintes.
On a observé au moins 25 modèles différents, on peut dire modèles, de mystérieux objets célestes. Mais il faut bien reconnaître que les observations sont parfois de longue durée. Il existe un rapport de gendarmerie dans notre région, c'est le rapport numéro 454 de la gendarmerie de Draguignan. Eh bien, en épluchant ce rapport, on s'aperçoit qu'un ovni est resté dans la région de Draguignan, c'est-à-dire dans un périmètre d'environ 5 km autour de Draguignan, pendant plus de 8 heures. C'est quand même quelque chose d'important.
Eh bien, je conduisais en voiture ici à Villemomble, et j'ai levé la tête, j'ai aperçu dans le ciel une boule incandescente, avec une longue queue qui pouvait être séparée en trois parties et qui superposait les unes sur les autres. Cette boule était assez grosse, c'était un objet qui volait environ à 300 mètres, 300 ou 400 mètres d'altitude.
Il a été observé par plusieurs témoins, il a été observé par un berger le soir vers 19h, et ensuite il a été vu à 3h du matin par un groupe de jeunes gens qui revenaient de donner un concert dans la région de Draguignan. Leur voiture a été, semble-t-il, suivie par cet objet, et nous savons personnellement, notamment avec notre ami Jean Miguère, puisque nous avons fait des enquêtes sur le terrain, qu'il y a un point qui semble attirer les ovnis dans la région de Draguignan, c'est la colline du Malmont, où nous allons souvent faire des enquêtes et où nous rendons sur le terrain, car nous pensons qu'il peut y avoir quelque chose qui est resté, que ces entités qui viennent d'ailleurs, on ne peut pas les appeler ces ouraniens, que ces entités qui viennent d'ailleurs ont laissé quelque chose sur le terrain, et c'est ce que nous aimerions retrouver.
C'était un objet qui ne faisait pas de bruit, et il volait très très lentement.
Objet volant non identifié, un pilote italien a poursuivi sans succès un mystérieux objet de forme circulaire qui émettait des signaux lumineux. L'objet a été repéré sur les écrans radars, de même que par les passagers d'un avion de ligne. En France, un témoin a vu le même objet.
J'ai vu d'autres personnes, c'était un jeune homme, il devait rentrer chez lui, et il a perçu également cet objet bizarre, et il a voulu chercher également des personnes pour voir. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un avion en flamme, et puis, vu la traînée de... Je ne sais pas, de fumée, même pas, c'est même pas de la fumée, c'était rouge, orange, rouge. Ça m'étonne que ça soit un avion en flamme, parce que c'était vraiment trop long.
Nous avons vu, disons, un cercle ou une boule, si vous voulez, trajectoire, forme d'ellipse. Je l'ai vu pratiquement au sommet de sa courbe, et la chute a été assez rapide. Couleur assez bleue, avec, disons, ce qu'on repose, disons, avec une chevelure, si vous voulez, qu'on observe, que l'on représente, si vous voulez, sur les fonds des comètes, etc.
Les envahisseurs.
J'y croyais absolument pas il y a encore 6 mois. Pour moi, c'était une vaste blague. Et puis, le 30 novembre 1973, vous voyez que c'est pas vieux, il y a une dépêche de l'agence France Presse, qui est l'une des 4 grandes agences internationales, qui racontait une histoire qui me semblait absolument extraordinaire sur un phénomène qui s'était produit à Turin. Au-dessus de l'aéroport international de Turin, le radar civil et le radar militaire avaient détecté à 3000 mètres d'altitude un objet inconnu, gros comme un quadriréacteur, qui avait un comportement extrêmement bizarre, qui faisait du surplace et puis qui brusquement avait des accélérations très fortes.
Il est certain que il y a des choses que l'on ne comprend pas et qui sont à l'heure actuelle relativement inexpliquées. Et je dirais même que il est irréfutable qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont inexpliquées ou mal expliquées. A été créée au ministère des Armées une section de réflexion et de recueil de témoignages sur ces apparitions d'objets non identifiés. J'ai là parcouru un certain nombre de témoignages et ces témoignages se sont développés jusqu'en 1970, il y en a une cinquantaine.
On apprend aujourd'hui que 2 habitants de Montbazon ont suivi dimanche, pendant une quinzaine de secondes, les évolutions d'un engin circulaire, brillant, à reflets métalliques, qui évoluait à très haute altitude. L'engin, venant de l'est, vira très rapidement à la verticale au-dessus de Montbazon et disparut vers le nord. Son vol ne produisait aucun bruit. Dans les milieux autorisés, on pense qu'il pourrait s'agir là d'une soucoupe volante. Mais devant de tels faits, la plus grande prudence s'impose.
il y a l'histoire de ce policier qui rentrait chez lui dans une voiture de patrouille et qui, à un moment donné, s'est aperçu que la route sur laquelle il était engagé, à assez vive allure, était très éclairée par une lumière qui était assez blanchâtre et qui venait du ciel. Et quand il s'est engagé dans ce cône de lumière, mon Dieu, le moteur a eu des ratés, les phares se sont éteints, il n'y avait plus de jus du tout, et il a stoppé, et il s'est mis à la portière, il a regardé, et il s'est aperçu que la lumière était un cône qui venait d'au-dessus de sa voiture.
Sur la diapositive agrandie, si vous voyez, nous voyons la forme d'un disque dont la base présente une couleur verte, et je précise que ce disque est filmé dans le noir absolu, puisque c'est en pleine stratosphère, donc il n'y a pas de phénomène météorologique, il est dans le noir absolu, il n'a donc aucune source de lumière qui est possible pour l'éclairer. Il présente une couleur verte à la base. En allant vers le centre, il y a une luminosité extraordinaire, puisque la gélatine, bien que l'objet se trouvait à ce moment-là à 15 km, la gélatine a littéralement été brûlée. Ensuite, au sommet de ce premier étage de cet ovale, il y a une lueur rouge. Et apparemment, au-dessus, il y a un deuxième étage.
Voilà, eh bien, si vous voulez, dans cette affaire, alors là, je serai infiniment plus prudent, mais je dois dire que si vos auditeurs pouvaient voir, n'est-ce pas, l'accumulation des renseignements de la gendarmerie de l'air, gendarmerie mobile, gendarmerie chargée des enquêtes territoriales, qui ont été transmises, si vous voulez, au CNES par nos soins, c'était toutes les pièces que nous possédions, c'est effectivement assez troublant. Ce que je crois, c'est que les gendarmes sont des gens sérieux. Que les gendarmes, quand ils font un rapport, ils ne le font pas au hasard. Et que s'il n'y en avait qu'un ou deux, on pourrait que dire que la bonne foi des gendarmes ait été surprise. Mais je dois dire qu'il y a tout de même un grand nombre de rapports de gendarmerie.
Il est certain que j'ai rencontré des gens au cours de cette émission qui m'ont dit « Ah, moi, de toute façon, je crois aux soucoupes volantes. » Et j'ai rencontré des scientifiques qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est de la blague. » On m'a même parlé, un éminent scientifique que je ne citerai pas, m'a dit « Mais c'est des histoires de coucherie avec les martiennes. Lisez le rapport Condon. »
Naturellement, il ne s'agit pas de rejeter comme absolument impossible que des phénomènes non encore connus se manifestent. Et c'est bien la raison pour laquelle des études sérieuses sont menées. Après tout, de même que nous sommes capables à l'heure actuelle d'envoyer des satellites artificiels, il n'y a pas de raison a priori de repousser l'idée que des visiteurs venant de Proxima Centaure, par exemple, après 30 ans de voyage, viennent nous rendre visite.
On peut certainement faire une comparaison entre les soucoupes volantes et les serpents de mer ou monstres du Loch Ness, qui ont été très souvent donnés comme ayant été observés par différentes personnes qui interprétaient une apparence un peu bizarre par ce vocable de serpent de mer en général, et qui, dans certains cas, pouvait correspondre à une hallucination une déformation de perception à cause même de cette idée préconçue, et qui dans d'autres cas était simplement quelque chose de bizarre, comme observé, que la personne transformait dans son esprit à partir de cette idée de monstre marin.
On sait que la commission américaine qui étudiait depuis 2 ans le problème des soucoupes volantes vient de clôturer ses travaux en concluant officiellement qu'il s'agissait d'un mythe. Parmi les 175 rapports soumis à son étude, la commission n'a pas trouvé un seul cas impossible à expliquer soit par une erreur d'observation, soit par un phénomène naturel.
L'impression générale que l'on a en parcourant les diverses informations qui ont été répandues dans la presse depuis quelques années au sujet des soi-disant soucoupes volantes aboutit de façon très certaine pour la plupart des esprits scientifiques à l'impression qu'il n'y a aucune possibilité de conclure à l'existence d'un phénomène ou d'éléments correspondant à une interprétation analogue à celle qui en est donnée sous ce vocable de soucoupe volante.
Pourtant, M. Donald Kehoe, ex-assistant de Lindbergh, gradué d'Annapolis, ancien aviateur de guerre et membre du bureau de l'aéronautique civile américaine, proteste contre cette interprétation et soutient que les étranges apparitions signalées depuis quelque temps sont des vols de reconnaissance venus d'une autre planète.